Bonsoir et bienvenue à la tribune de la presse de ce vendredi 26 août 2011. Trois thèmes sont au menu de notre émission de ce soir, à savoir candidature commune et unique de l'opposition. Étienne Tshisekedi plébiscité candidat commun de l'opposition à la présidentielle de novembre prochain. Sur décision d'une vingtaine des partis politiques de l'opposition, la nouvelle passe mal au MLC et à l'UNC de Vital Kamerhe qui estime que la décision est inopportune. Dans notre deuxième thème, nous parlerons du rejet par le Sénat du projet de loi portant création de la Cour spéciale des répressions des crimes. Selon le ministre de la Justice, cette Cour devrait entre autres assurer la répression des violations les plus graves du droit pénal international et humanitaire commises sur le territoire congolais. Changement à la tête de la Société nationale d'électricité, c'est notre dernier thème. Le président de la République, Joseph Kabila, a limogé le week-end dernier tout le conseil d'administration de cette entreprise. Pour le débat ce soir, je reçois dans ce studio Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région de Grand Lac. Bonsoir Benoît.
Bonsoir Kelly.
Alain Botoko, reporter, photographe indépendant. Bonsoir Alain.
Bonsoir Kelly.
Et Dieudonné Moulamba, journaliste de la radio-télé Malandji FM. Il est aussi correspondant de Digital Congo. Il intervient depuis la ville de Kalanga. Bonsoir Dieudonné.
Bonsoir Kelly et bonsoir à tous les auditeurs de Radio Kapi.
Merci de nous suivre partout en RDC sur la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiookapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission. Comme d'habitude, avant d'entrer dans le vif de notre débat de ce soir, jetons un coup d'œil dans les colonnes des journaux kinois pour voir comment la presse écrite a traité les sujets que nous avons retenus pour vous ce soir. La revue de presse avec vous, Samuel Kachak.
Bonsoir. Commençons cette revue de presse avec l'Avenir qui estime que les violences sont loin de s'accorder autour de la candidature commune à l'opposition. Ce journal s'indigne du fait qu'au fur et à mesure qu'on s'approche de la date fatidique des échéances électorales, les divisions ne cessent de prendre corps au sein de l'opposition politique, et ce, au risque de semer la confusion dans le chef des partisans de l'opposition. Pour la prospérité, cette désignation d'Étienne Tshisekedi repose sur un critérium défini par le bureau de la modération de l'opposition. Parmi ces critères, l'on retiendra notamment la popularité, l'intégrité morale, le leadership incontesté et visionnaire et la capacité de restaurer l'autorité de l'État. L'observateur de son côté estime par contre qu'Étienne Tshisekedi est investi candidat unique provisoire de l'opposition car à l'UNC, on pense que désigner d'office le candidat unique de l'opposition à l'élection présidentielle de novembre 2011 revient à mettre la charrue devant le bœuf. Alors qu'au MLC, on croit que la candidature de Jean-Pierre Bemba reste intacte et ne souffre d'aucune menace. Autre sujet abordé cette semaine, c'est le rejet par le Sénat du projet de loi portant création de la Cour spéciale de répression des crimes. À ce sujet, la tempête des tropiques mentionne la colère de la Fédération internationale des droits de l'homme contre les sénateurs congolais. Elle s'insurge contre le rejet de cette loi qui, selon elle, devrait combler les lacunes d'une justice congolaise incapable de lutter efficacement contre l'impunité des crimes internationaux. Pour la FIDH, la décision du Sénat porte un sérieux frein aux efforts conjugués pour répondre aux droits des victimes à la justice, conformément aux dispositions des conventions internationales de protection des droits humains ratifiées par la RDC. Terminons cette revue de presse avec Le Phare qui, parlant de la situation qui prévaut à la SNEL, souligne qu'Éric Mbala succède à Yengo en qualité d'administrateur délégué général de cette compagnie nationale d'électricité. Le potentiel de son côté estime qu'au-delà d'une simple sanction administrative, il faudrait engager la responsabilité individuelle de tous ceux qui avaient transformé la SNEL en champ de bataille pour justifier leurs intérêts personnels.
Merci Samuel Kachak pour cette revue de presse. Autre sujet d'actualité cette semaine, c'est la désignation des membres du CESAC. L'affaire Yves Kisombe avec la journaliste de RTVS1. La demande du Sénat de prolonger la date du dépôt des candidatures aux élections et la conférence des gouverneurs qui commence aujourd'hui à Kinshasa. Benoît Cambéré, vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Un mot sur tous ces sujets que nous venons d'énumérer.
Il faut dire que cette semaine a été particulièrement riche en événements. Vous constatez qu'en dehors des trois thèmes qui ont été retenus par Radio Capi, n'est-ce pas, pour le débat de ce soir, il y a les autres thèmes non moins importants qui se bousculent, notamment la désignation du membre du CESAC qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive, n'est-ce pas?
Et il y a des corporations qui contestent les membres désignés.
Absolument, parce que les corporations ont désigné leurs membres et on ne sait trop par quelle magie. Certains noms ont sauté, remplacés par d'autres, désignés comment, on ne sait pas. Et il y a déjà des contestations dans ce sens-là. Il y a, c'est vrai, la désignation des autres membres de la SNEL et bien sûr, cette grosse affaire de ce député qui est en train de déshonorer l'hémicycle du Palais du Peuple, qui déshonore finalement la famille politique dans laquelle est en train d'évoluer.
Alors il y a même la Corporation des journalistes qui a organisé une marche aujourd'hui pour demander au président de l'Assemblée nationale la déchéance de M. Kissombé.
J'ai fait partie de la marche.
Alain Botoko, vous êtes reporter, photographe indépendant. Un mot aussi sur la revue de presse et les sujets qui ont fait l'actualité cette semaine.
Il faut dire qu'en dépit de différents problèmes ou de difficultés que la presse congolaise est en train de connaître, elle s'efforce pour pouvoir donner le mieux de ce qu'elle peut pour la population afin qu'elle soit informée et qu'elle sache ce qui est en train de se passer réellement dans son pays. Il faut dire que la presse, comme on a résumé, la chose était très claire. Les sujets sont multiples. La semaine a été aussi forte en activité. Mais je voulais ajouter un petit élément. Tout à l'heure, là, on est en train de clôturer au Grand Hôtel un atelier sur ce que serait demain les dérives de Congo. Il y a un pont qui sera projeté. Ça serait aussi une très bonne chose pour les Congolais de dérive.
Les travaux organisés par qui?
Les travaux sont organisés par les deux gouvernements, représentés par leurs ministres, et aussi financés par la BAD, la Banque africaine de développement, et coordonnés par le CAC.
Merci à la Botoko Dieudonné Moulamba. Vous intervenez depuis la ville de Kananga, dans la province du Kasaï occidental. Vous êtes journaliste de la radio-télé Malanji FM et aussi correspondant des Digital Congo. Qu'est-ce qui fait l'actualité aujourd'hui dans la province du Kasaï occidental?
Merci Kelly. L'actualité au Kasaï occidental, sont les 100 jours de l'actuel gouvernement provincial dirigé par Hubert Kabasubabu, gouverneur de province. Cette actualité a fait couler d'encre salive sur la ville. Il y a effectivement une frange de la population qui pense que le gouverneur de province, quand il venait d'arriver, il a été applaudi avec son gouvernement, de par son discours. Et puis, on pense que dans ses premiers jours, il a dû faire quelque chose pour attirer vers lui la population ouest-kassayenne. Et il y a d'autres qui demeurent encore radicaux quant à dire que le chef du gouverneur de province est en train de faire quand même des bonnes réalisations, notamment le rétablissement de l'eau qui coule maintenant au robinet avec son appui à la régie des eaux. Il y a d'autres petits secteurs qui ont connu une certaine élévation après son accès au pouvoir, mais il y a d'autres personnes sur la ville, parce qu'on a eu même organisé des micro-baladeurs sur la ville sur ces 100 jours. Il y a d'autres personnes qui pensent que le gouverneur de province a donné une belle image au départ, mais maintenant là, c'est comme si il s'est conformé au protocole de ceux qui l'ont précédé. Alors nous, on s'est dit, c'est pratiquement ça, l'actualité au Kasaï occidental. La population pense qu'il faut que le gouvernement fasse mieux.
Merci Dieudonné Moulamba. Premier thème de ce soir. Une vingtaine des partis politiques de l'opposition ont désigné mercredi dernier à Kinshasa Étienne Tshisekedi, candidat commun et unique de cette plateforme à la présidentielle de novembre prochain. La décision a été prise au cours d'une plénière dans la salle de conférence de Fatima, sous la modération du député national Lisanga Bonganga. Mais le MLC, l'UNC de Vital Kamerhe et d'autres partis se sont retirés avant la tenue de cette plénière. Ils estiment que la désignation d'un candidat commun de l'opposition ne constitue pas encore à cette étape une priorité, comme en témoigne Aske Zibia Tayoro.
Deux heures avant la tenue de cette plénière, bon nombre de représentants du groupe de 25 partis politiques étaient dans la salle de réunion de Notre-Dame de Fatima. Entre-temps, de délégués d'autres partis de l'opposition se sont tenus dehors pour des concertations de dernière minute avant le début de la plénière. Subitement, le délégué du MLC et de l'UNC se sont confiés à la presse, Jean-Lucien Boussa.
Est-ce que c'est au cours de cette rencontre où on doit faire l'évaluation des réponses de la CENI à l'opposition politique qu'il faut venir aborder les questions de la candidature unique? Je ne pense pas que ça soit le lieu. Le MLC et beaucoup d'autres partis politiques ne s'inscrivent pas dans ce schéma.
Cette prise de position n'a pas du tout empêché la tenue de la plénière qui a plébiscité Étienne Tshisekedi, candidat commun et unique pour l'opposition à l'élection présidentielle de 2011. Le député national Lisanga Bonganga, modérateur de cette plénière.
Chers collègues, nous pensons que la tendance générale et essentielle s'est dégagée autour de la candidature commune du président Étienne Tshisekedi Ouamouna.
La plénière s'est clôturée avec l'idée de procéder très vite dans un bref délai à l'investiture d'Étienne Tshisekedi compte tenu de la date butoir de la fin du dépôt des candidatures fixée au 5 septembre prochain par la CENI.
Merci Eskazigbia. Alain Botoko, encore un malentendu au sein de l'opposition. Comment vous analysez cette situation?
Oui madame, il faut retourner un peu en arrière, il y a quelques mois. Vous savez, la RDC n'invente pas la roue. La roue est là, il faut s'y mettre. Normalement, dans une élection, dans un pays qui est en train d'apprendre la démocratie, il devait y avoir deux tours. Et comme on n'a que l'unique tour... Et il y a un député même, le jour où les deux chambres se réunissaient pour pouvoir valider la modification de la Constitution, il y a un député qui a dit « l'histoire va nous juger très dur dans la suite ». Et au sorti, un étranger m'a dit, il a dit « écoute, ça va être très complexe, hein, les hommes politiques vont se comporter comme des kamikazes ». Moi, ça ne m'étonne pas. Regardez, Vital Kamerhe... vient de naître, mais il a une popularité derrière lui. Hein. Le MLC garde encore quelque chose de bon. Et ils sont en train de monter les enchères pour pouvoir négocier avec Tshisekedi qui est entré au sud, de montrer qu'il est capable de beaucoup. Donc ça ne m'impressionne pas. Je pense que c'est une bonne guerre. Il faut mettre la barre haute. Et ça, c'est je voulais juste un peu retourner un peu en donnant un petit conseil à Étienne Tshisekedi disant qu'il faut pas écouter les extrémistes. Si vous prenez l'amour, il faut savoir ce que l'amour en réalité. Il faut savoir s'humilier, il faut savoir négocier. Et ce même mot, en fait, je l'adresse aussi à Joseph, regardez.
Et vous pensez que Tshisekedi, excusez-moi, vous pensez que Tshisekedi ne négocie pas avec les autres partis politiques?
Il faut dire qu'il est en train de négocier, mais c'est pas trop foncé, ça se voit pas quoi. Donc je voudrais que ça soit plus visible, qui rassure les autres en réalité. Et cette balle est dans son camp, je pense.
Benoît Kombéré, comment vous jugez cette situation au sein de l'opposition? Est-ce que ce n'est pas donner la chance à la majorité finalement de remporter ces élections?
Justement, c'est à se demander s'il y en a pas qui travaillent pour la mouvance présidentielle à l'opposition. Au moment où, en ce moment précis, ce n'est pas le moment de querelle de clocher en ce qui concerne l'opposition. Tout le monde sait que quand la mouvance présidentielle a fait annuler le deuxième tour, c'était pour qu'on en arrive à cette situation. Et si ceux qui se disent de l'opposition ne l'ont pas compris, c'est quand même assez grave. Je ne comprends pas, à titre d'exemple, que le MLC, qui a profité du fait que l'UDPS, notamment, ne s'est pas présenté lors des élections passées, peut se comporter de cette façon. D'autant plus que, et ça je le regrette beaucoup pour les gens du MLC, qu'ils savent pertinemment bien que Jean-Pierre Bemba est non partant. Cela a été, hier j'étais à la CPI, au bureau de représentation de la CPI ici, pour la clôture, n'est-ce pas, du procès Thomas Lubanga. Eh bien, la CPI a déjà adressé sa sentence au MLC depuis le 27 juin. On ne peut pas continuer à faire monter les enchères pour faire monter les enchères. Qu'est-ce que les gens qui se disent de l'opposition veulent négocier? Qu'on leur donne déjà des postes avant les élections?
Pour le MLC, Benoît Kamere, il faudrait commencer d'abord par avoir un programme commun de l'opposition avant de passer à la désignation d'un candidat de l'opposition.
Mais pourquoi ne pas... Chaque parti a son programme, ça c'est un. Il y a des partis de gauche, il y a des partis de droite. Et maintenant, tous ceux qui sont de l'opposition travaillent pour une chose, l'alternative, l'alternance. Que déjà, si on se met d'accord sur ça, en ne montant pas les enchères pour rien, là, à titre d'exemple, le MLC veut placer qui contre Tshisekedi? Je ne sais pas. Ils veulent qu'on leur assure des postes, que tel sera à la Banque centrale, que tel autre sera... Attendons les élections. Moi, je pense que c'est à l'issue des élections, parce que malheureusement, la mouvance présidentielle a piégé l'opposition. C'est à l'issue... S'il y avait un premier tour, on verrait qui vaut quoi, qui représente quoi. Mais maintenant, là, s'ils sont vraiment de l'opposition, ils n'ont qu'à faire bloc autour d'un candidat commun, qu'ils avancent ensemble, dès qu'ils auront... gagner ensemble, comme ça...
Chacun venant avec son programme.
Absolument.
Ça ne sera pas un désordre, Benoît Kamere.
Non, ça ne sera... Au contraire, si tu n'as pas de député, tu vas amener quel programme? Si tu n'es pas élu, tu vas amener quel programme? En principe, on va prendre un programme commun, il y aura des inputs, naturellement, mais on ne peut pas se battre aujourd'hui comme des chiffonniers, tout simplement parce qu'on doit être rassuré d'un poste à gauche ou d'un poste à droite. Alors là, c'est qu'on est en train de faire l'opposition pour ses intérêts personnels, malheureusement.
Dieudonné Moulamba, est-ce que la coalition des partis politiques de l'opposition qui a désigné Tshisekedi comme candidat commun de l'opposition ne devrait pas tenir compte de la remarque du MLC et de l'UNC pour la bonne marche de l'opposition?
Je pense que c'est une hypothèse qu'il ne faut pas directement rejeter sans réfléchir, hein. Parce qu'il ne faut pas, parce qu'on a longtemps parlé de Tshisekedi, que ces formations politiques puissent s'aligner derrière lui et de manière aveugle. Les arguments avancés par les autres partis politiques tels que l'UNC et le MLC de Bemba et Kamere. Mais moi je me dis que c'est aussi fondé, parce que ces partis politiques doivent d'abord savoir si ils se mettent ensemble pour désigner un candidat unique pour la présidentielle qui s'annonce. Il faut qu'on sache, après les élections, quel programme va être défendu, quel programme va être appliqué. Alors si, avec des projets différents, probablement divergents aussi, on s'hasarde s'aligner derrière Tshisekedi, je pense même pour Tshisekedi, ce n'est pas profitable. Parce que, après avoir eu le pouvoir, il risque d'être muté aussi à une difficulté telle que cette différence de projet de société va maintenant rebondir et les gens pourront commencer à réclamer de gauche à droite, savoir, nous, on y allait avec telle philosophie, mais on s'est trouvé embarqué dans la chose sans tenir compte de tout cela. Et aujourd'hui, nous réclamons notre part de choses parce que cela c'est conforme à notre projet de société. Je pense les partis politiques qui se sont alignés derrière Tshisekedi devaient réfléchir par rapport à ça. En plus de ça, je me dis aussi, depuis un temps, l'opposition nous a fait croire qu'il y a du désordre, il y a une mauvaise façon d'organiser les choses dans la majorité aujourd'hui au pouvoir. Mais devant une petite concertation préélectorale, je me réalise que l'opposition ne sait pas se mettre d'accord. Ça donne vraiment un mauvais signe de temps. Ça donne un mauvais signal par rapport à ce qui pourra être éventuellement le pouvoir de demain si effectivement l'opposition arrivait à remporter la victoire aux élections. En plus de ça, il faut aussi savoir une chose. Il ne faut pas que l'UDPS puisse penser qu'aller aux élections, ces autres partis politiques que sont l'UNC et l'MLC puissent être une bonne façon d'avoir des garanties de victoire aux élections. Parce que ces partis-là, ce n'est pas pour rien qu'au départ, c'est ce qu'ils avaient trouvé normal de pouvoir cheminer avec eux, parce que c'est pas par hasard qu'ils se sont rencontrés en réunion pour pouvoir débattre de la question. En plus, il faut aussi que Vital Kamerhe et les amis de l'MLC puissent savoir aussi que, de toutes les manières, ils ne doivent pas y aller n'importe comment, ou ils ne doivent pas être trop exigeants à l'endroit ce délit des fesses, ou bien tous ces partis politiques qui sont derrière qui se crédit. Parce qu'un candidat de l'opposition, moi je pense que c'est quelqu'un qui doit d'abord faire la cartographie électorale de la République démocratique du Congo et confronter cette cartographie électorale par rapport à sa popularité, par rapport à ses moyens afin de pouvoir faire face aux élections présidentielles, parce que le pouvoir en place ou la majorité, c'est là où il y a eu de l'expérience, il faut dire ça. Il y a beaucoup de risques qu'on puisse converger à un échec lamentable, voilà.
Alain Botoko, qu'est-ce que vous pensez de la proposition du MLC d'avoir un programme commun de l'opposition?
Vous savez, madame, le MLC, c'est ce qu'il est en train de dire. Hein. Pourquoi? Parce que, regardez, il s'est dit, bon, écoute, comment je vais survivre après les élections? Ben, écoute, il faut que je monte les enchères et que je négocie avec les autres ou l'autre qui est en bonne position pour pouvoir prendre cette place. Je me dis, c'est la même chose, mais pour l'INC. Il s'est dit, bon, écoute, il montre aux 20 autres partis qui restent qu'ils nous sommes un peu plus forts, un peu plus, nous drainons un peu plus le monde derrière nous. Nous avons des réclamations à faire. Donc, c'est normal dans la suite des choses. Je pense qu'ils sont en train de négocier entre eux.
Alors, Benoît Combéré?
Absolument. Il ne faut pas dire que tout est perdu. Non. Moi, j'ai entendu la déclaration de l'UNC, j'ai entendu la déclaration d'un membre du MLC. Les portes ne sont pas fermées, mais le fait, déjà, compte tenu de la date, que les gens qui sont derrière, les partis de l'opposition qui sont derrière Tshisekedi annoncent déjà ça, c'est pour qu'on aille vite. On a trop perdu de temps, il n'y a pas assez de temps.
Mais on peut donner le nom la veille.
Absolument, on peut donner le nom de la veille, mais d'ici à la veille, beaucoup de choses sont en train d'être faites. D'ici à la veille, les choses vont se clarifier. S'ils sont tous de l'opposition, ils ont intérêt à avoir un candidat commun pour mieux se prévaloir de l'alternance dans ce pays.
Deuxième thème de ce soir, le Sénat a rejeté le projet de loi portant création de la Cour spéciale des répressions du crime. C'est au cours de la session plénière du lundi 22 août 2011. Ce projet, présenté par le ministre de la Justice, devrait, entre autres, selon Luzolo Bambi, assurer la répression des violations les plus graves du droit pénal international et du droit international humanitaire commises sur le territoire congolais, de renforcer l'indépendance de la justice vis-à-vis des interférences politiques ou militaires et d'aménager un système judiciaire spécifique garantissant le procès équitable. Mais les sénateurs ont jugé inopportun la mise en place d'une telle structure en RDC. Sénateur Toussaint Ekombe Petchi, vous êtes président de la commission politique, administrative et judiciaire du Sénat. Quelles sont les raisons qui ont poussé la chambre haute du Parlement à renvoyer ce projet de loi au gouvernement?
Il appartient à l'exécutif de sécuriser les magistrats, de faire en sorte qu'ils soient effectivement libres, totalement indépendants, notamment des pressions politiques. Une autre raison pour crédibiliser la justice, il proposait entre autres l'inclusion de magistrats étrangers. Nous avons dit, mais ces magistrats étrangers risquent plutôt de créer beaucoup plus de problèmes qu'ils n'en résoudraient, parce que ils vont cohabiter avec leurs collègues congolais. Comment seront-ils payés par rapport à leurs collègues congolais qui vont siéger à cette cour, d'une part, et par rapport aux autres magistrats qui travaillent ailleurs dans d'autres juridictions? Une autre raison, c'est que créer une autre cour qui coexisterait avec la cour d'appel risquerait de créer beaucoup de cas de litispendance.
Au sénateur Toussaint Ekombe Petchi de souligner, ce que le peuple congolais attend du gouvernement congolais, c'est la mise en place d'un tribunal pénal international. Signalons que ce projet de loi qui vient d'être rejeté au Sénat n'est pas encore débattu au niveau de l'Assemblée nationale. Les propos du sénateur Toussaint Ekombe ont été recueillis par Jacques-Yves Molima. Entre-temps, quatre organisations, dont la Fédération internationale de droits de l'homme FIDH, accusent les sénateurs de la RDC de torpiller ce projet et regrettent vivement cette décision. Il rappelle l'importance d'établir un mécanisme spécifique pour lutter contre l'impunité des crimes les plus graves commis en RDC. Dieudonné Moulamba, je rappelle que vous êtes journaliste de la radio-télé Malandji FM. Vous êtes aussi correspondant des Digital Congo à Kananga. Comment vous analysez la réaction du Sénat?
Bon, je ne connais pas personnellement au départ les débats qu'il y avait eu entre les sénateurs sur cette question, mais je me dis, si c'est en craignant qu'il y ait télescopage entre les juridictions se trouvant en République démocratique du Congo et cette cour jusque-là au niveau du projet, ok, les sénateurs ont raison, mais je pense aussi qu'il y a lieu de pouvoir voir les choses d'une autre manière. Nous sommes dans un pays post-conflit, il y a eu la guerre partout au Congo, et je me dis qu'avec une cour comme ça, ça serait aussi bien de pouvoir compléter les autres juridictions qui sont déjà sur place en République démocratique du Congo, parce qu'il y a beaucoup de possibilités qu'on puisse converger à des crimes en République démocratique du Congo. Si aujourd'hui les sénateurs pensent que les juridictions qui sont là sont à la hauteur de tout ce qu'il y a comme charge en matière de justice, mais écoutez, on doit savoir qu'il y a jusqu'à présent beaucoup de crimes qui ne sont pas déjà régularisés, ou bien qui ne sont pas dont on ne tient pas compte dans la juridiction, ou bien qui ne sont pas résolus, qui n'ont pas été pris en charge sur le plan juridique pour pouvoir donner des leçons à ceux qui peuvent être tentés de converger à des crimes comme ça. Alors je pense que d'un côté, ce projet devait être bienvenu, mais de l'autre, il fallait aussi que ceux qui en sont auteurs puissent penser à ceux qui risquent d'y avoir comme comme télescopage entre les juridictions en République démocratique du Congo.
Dieudonné Mulamba, il y a certains observateurs qui pensent que les sénateurs auraient peur de cette cour puisqu'elle pourrait concerner tous les anciens belligérants.
Bon, écoutez, c'est aussi un point de vue qu'il faut prendre en ligne de compte, et si c'est cela le raisonnement d'un sénat, du Sénat de notre pays, mais écoutez, là les choses deviennent maintenant terre à terre, parce que il ne faut pas qu'on puisse, parce qu'on est au Sénat aujourd'hui, il ne faut pas qu'on puisse être en mesure de bloquer la bonne marche du pays. Parce que je ne pense pas que ces sénateurs-là, aujourd'hui, en plein mandat, puissent trouver normal qu'il y ait des crimes en République démocratique du Congo, même si eux en ont été auteurs à un certain moment. Donc, ils doivent laisser le pays prendre l'élan qu'il faut.
Et Alain Boutoko, cette loi est-elle opportune aujourd'hui en RDC?
Bah, il faut dire que je ne partage pas la même avis que mon confrère de Kananga, mais de toutes les façons, c'est son point de vue. Les gens commencent déjà à prendre conscience que quand on gère le pays, il faut qu'on soit sûrier, il faut qu'on sache ce qu'on est en train de faire. Voyez-vous, madame, combien de cours nous avons ici au Congo? Quel est l'état de ces cours et de ces juridictions qui sont ici au Congo? Alors, pourquoi une autre juridiction, une autre cour spéciale qui composerait des magistrats venant de pays qui ont déjà un niveau? Vous savez, combien est payé un magistrat qui doit trancher les choses, qui vient de Paris ou de Washington pour trancher les choses ici au Congo? Et quel est le salaire de notre magistrat ici au Congo? Alors moi je crois qu'avec tous ces éléments-là, je pense que le sénateur a eu à réfléchir, et je partage leur point de vue disant que c'est une juridiction de trop, nous avons déjà des juridictions. Mais ce que je proposerais, c'est que qu'il y ait une cour internationale comme au Rwanda ou ailleurs, il y en a plein. Parce qu'il ne faut pas qu'on laisse les crimes impunis. Nous voudrions une nation, nous voudrions construire une nation, il faut qu'il y ait des choses sérieuses, et il faut des bases, une base solide pour une nation. C'est ma façon de voir les choses, et j'adhère ça, c'est que les sénateurs ont...
Benoît Kambere, vous... Merci Alain. Benoît Kambere, vous adhérez aussi au rejet de cette loi par le Sénat?
Absolument. C'est tout à l'honneur du Sénat. Il y a eu une proposition, on en avait parlé ici à Radio Okapi, n'est-ce pas, avant la fin de la session dernière, que le gouvernement voulait faire passer en vitesse, tout simplement pour qu'il commence à jouer le rôle du Parlement pendant cette période. Eh bien, le Sénat l'a rejeté. Et c'est à tout à l'honneur du Sénat. Le Sénat encore a barré la route de la loi électorale, n'est-ce pas, en aménageant et en arrangeant les choses. C'est tout à l'honneur de la... Mais il ne faut pas oublier que la RDC a ratifié le statut de Rome. La CPI existe pour les crimes internationaux. On doit plutôt faire en sorte que les magistrats congolais soient indépendants, soient mieux traités. Pourquoi on veut faire une cour hybride avec des magistrats étrangers qui travailleraient avec... Non, faisons confiance aux produits locaux. On a des bons magistrats ici. Qu'est-ce qui manque? C'est l'indépendance. Que les politiques foutent la paix aux magistrats, au pouvoir judiciaire, et le pouvoir judiciaire fera son travail, tout simplement. Il vaut mieux peut-être les mettre dans des bonnes conditions plutôt que de chercher à créer des juridictions qui sont pléthoriques pour rien.
Alors pour les mettre dans les bonnes conditions, on a besoin des moyens.
Absolument.
Les moyens, il y en a.
Et les moyens pour créer d'autres juridictions, où ils vont les trouver? Parce que c'est encore le gouvernement qui propose ça. Ah non, il ne faut pas vouloir quelque chose et son contraire. Qu'on mette les magistrats dans des bonnes conditions, qu'on renforce l'indépendance de la magistrature en les dotant des moyens qu'il faut pour qu'ils travaillent, et les choses seront bien gardées. Si on veut créer une cour spéciale, comme l'a dit Alain, ça d'accord, un tribunal spécial pour la RDC, pour commettre des crimes que, par exemple, la CPI ne peut pas poursuivre, tout simplement parce que la CPI est limitée dans le temps, ça d'accord. Mais pas une juridiction hybride qui ne dit pas son nom. Heureusement que le Sénat a freiné cette énième proposition du gouvernement pour, encore une fois, affaiblir la magistrature congolaise.
Dieudonné Moulamba, la présence des juges étrangers dans cette cour ne pourrait-elle pas poser un problème de souveraineté ?
Il y a longtemps que nous avons évolué en République démocratique du Congo sur le plan judiciaire avec les magistrats locaux. Mais aujourd'hui, Benoît et Alain qui sont sur place en studio sont d'accord avec moi qu'on est en train de déplorer des problèmes de justice et on va des crimes en crimes. Mais écoutez, moi je me dis que si on fait appel à ces magistrats étrangers, je ne vois pas de mal. Et si les amis sont en train d'évoquer la question relative à l'argent ou au salaire de ces magistrats, non, mais il ne faut pas qu'on puisse rester... radical dans une position qui ne semble pas tenir debout, parce que combien d'argent on dépense en République démocratique du Congo aujourd'hui dans les choses inutiles? Et si, pour des raisons de justice, on fait appel à ces magistrats étrangers pour qu'ils puissent siéger ici au Congo, peut-être avec les soucis de pouvoir redresser la justice congolaise. Je ne vois pas pourquoi il faut continuer à dépenser l'argent dans les activités inutiles et laisser les secteurs judiciaires sans évolution. Donc moi je pense, contrairement à ce que les amis disent sur place en studio, que la présence de ces magistrats étrangers ne peut pas poser des problèmes à partir du moment où, dans la conception de ces projets, on aurait inséré la ligne de conduite qui sera tenue dans la façon de dire la justice sur place en République démocratique du Congo une fois cette cour mise en place. Donc je ne vois pas des dangers là-bas. Il ne faut pas qu'on puisse, pour des raisons très légères, penser qu'il faut bloquer cette marche de l'appareil judiciaire de la République démocratique du Congo. Et puis il ne faut pas aussi négliger tout ce qui a eu comme confection d'idées de la part du gouvernement qui a proposé ses points de vue, hein, ou ses projets. Parce que c'est le gouvernement qui est censé aujourd'hui superviser d'une manière ou d'une autre les activités judiciaires en République démocratique du Congo. C'est après avoir vu un déficit, après avoir vu qu'il y a des difficultés avec les juridictions déjà en place, qu'on a pensé mettre sur pied cette cour spéciale de répression des crimes. Je pense que si le Sénat bien réfléchit, ou si le Sénat pouvait bien réfléchir, de laisser passer ces choses, ces projets, mais avec moyennant certains amendements, je ne vois pas de mal.
Alors, de donner une dernière petite question avant de passer à notre dernier thème. Les amis ont soulevé la question sur les conditions de travail de nos magistrats. Vous pensez que le gouvernement va améliorer ces conditions-là parce qu'il y aura des juges étrangers au sein de cette cour?
Mais ça serait peut-être une question que le Sénat, sur laquelle le Sénat pouvait tabler pour pouvoir se référer encore au gouvernement pour savoir si on a déjà prévu les moyens de mise en œuvre de cette cour, bien les moyens de mise en place de cette cour par rapport aussi à ce qu'il y a comme problème, comme condition de travail des magistrats congolais. Et ça serait peut-être parmi les amendements qu'on devait prendre en compte avant de laisser passer ces projets.
Merci Dieudonné Moulamba. Terminons la tribune de ce soir par le limogeage par le chef de l'État, Joseph Kabila, du comité de gestion de la Société nationale d'électricité, SNEL. Le conseil d'administration de la SNEL a désormais des nouveaux membres. Ils ont été nommés par l'ordonnance présidentielle signée samedi 20 août par le chef de l'État. Alain Hong nous en donne la composition.
Le conseil d'administration de la SNEL est composé de 9 membres. Il s'agit de Makombo Monga Mawawi, président du conseil d'administration, Mbala Musanda, administrateur délégué, Célestine Hortense Mukalai Kionde, directeur général adjoint, Lali Makela, administrateur, Bolendombo Bolomela, administrateur, Boya Bozene, administrateur, Justin Lubo Kasongo, administrateur, Bernadette Pundu, administrateur, et Armand Kasumbu Borey, administrateur. À l'issue de ce changement d'équipe à la SNEL, plusieurs observateurs affirment que le défi d'améliorer la desserte en électricité à travers la RDC reste pourtant intact. Et certains Congolais se demandent si le simple fait de changer d'équipe pourrait résoudre ce problème crucial d'électricité où il faudrait absolument changer le mode de gestion.
Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs. Le changement à la tête de cette société, est-ce la solution pour mettre fin aux difficultés que connaît la SNEL pour fournir l'électricité aux Congolais?
Je dis non, c'est le 50e limogeage, c'est le 50e changement. En changeant d'équipe, par exemple, les commissions de l'argent qui peut venir de Brazzaville ou des pays étrangers ne va pas être détournée. En changeant d'équipe, on va maintenant commencer à curer le lac de rétention, le bassin de rétention qui n'a plus été curé depuis plusieurs années. Non, c'est un problème fondamental de mal gouvernance, tout simplement. Ce n'est pas en changeant des gens, en changeant de tête, quand on n'a pas changé le système, que quelque chose changera. Le grand dommage dans notre pays, on croit que on peut, comme ça, avec des épiphénomènes, résoudre le problème. Non! Le problème de transport d'électricité de Inga à Kinshasa, par exemple, il s'est toujours posé. Maintenant, on nous dit, non, c'est un problème d'étiage, c'est un problème... Est-ce que c'est la première fois qu'il y a une saison sèche dans ce pays? Ça existe depuis combien de temps? C'est tout simplement parce que les choses n'ont pas été gérées comme il se devait. Ça n'a rien à voir avec les hommes. Et on a changé les hommes. On a mis quels hommes? C'est encore du clientélisme politique. Ceux qui ont été mis là-bas, ils viennent d'un courant politique, c'est connu. Ceux qui étaient là étaient d'un courant politique. On a vu ici des transformateurs qui sont normalement des choses normales dans une société d'électricité, n'est-ce pas? Être escortés par des drapeaux tout simplement dans les quartiers pour des raisons électoralistes. Ce n'est pas ça une gestion d'une société nationale d'électricité. Tous les trucs vétustes qui sont là-dedans. Ce n'est pas en changeant les hommes. Où va l'argent? L'État doit à la SNEL 300 millions. Pourquoi l'État ne paye pas? L'argent de la SNEL qui est détourné par des individus, c'est connu. On a déjà arrêté l'un d'eux, par exemple, pour qu'on bouche les trous. Non. S'il y a encore une commission, le Zimbabwe paye, le Rwanda paye, le Burundi paye, parce que tous ces pays utilisent le courant de la RDC, le Congo ne va plus payer parce que, entre-temps, quand le Congo d'en face, le Congo Brazzaville, était en train de prendre le courant de la RDC, il était en train de s'organiser. C'est ça la gouvernance. Maintenant, le Congo Brazzaville est indépendant. Et d'ailleurs, dans la situation qui est la nôtre, de mauvaise gouvernance, nous allons recourir au Congo Brazzaville pour avoir l'électricité à Kinshasa. Non, c'est un problème de gouvernance, ce n'est pas un problème de changement d'homme. Qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres sans moyens, s'il n'y a pas le moyen? Qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres quand le clientélisme politique se porte très bien dans les sociétés de notre pays? Arrêtons, hein. Merci. On a vu comment les congrès d'un certain parti s'est
effectué
avec les entreprises de l'État.
Merci Benoît Cambéré. Alain Botoko, vous êtes reporter, photographe indépendant. Vous êtes aussi d'avis que le changement à la tête de cette société ne changera rien, n'apportera rien de nouveau, comme le dit Benoît Cambéré?
Madame, il y a un problème très sérieux dans la gestion de nos entreprises publiques. La gestion est archaïque et surtout... C'est une gestion de la cueillette. C'est-à-dire, on cueille aujourd'hui, on mange, et puis demain, on ne sait pas ce que ça va arriver. En réalité, une bonne gestion, c'est une gestion réfléchie. On doit prévenir, on doit projeter dans l'avenir. Vous savez, ceux qui ont conçu la création de Inga, ce sont les Américains. Ils ont prévu tout ça, ils ont dévié le fleuve. Et ils savaient qu'il y aurait des moments de chute d'eau, des moments où l'eau va augmenter, des moments où l'eau va diminuer. Il fallait bien gérer l'argent et pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir compenser à ces réalités. Vous savez, il n'y a pas que ça. Il y aura d'autres problèmes qui pourront se poser dans l'environnement parce que le changement climatique pose des problèmes énormes dans le monde. Mais il faut une bonne gestion, une gestion claire pour pouvoir résoudre les problèmes. Eric Mbala ne fera pas la magie que Yengo. ça c'est déjà connu. Au contraire, il y aurait encore plus de dépenses dans l'installation de son gouvernement, de son cabinet, et c'est de l'argent que la SNEL va pouvoir perdre. Non, moi je pense qu'il faut pouvoir retourner à une gestion réfléchie, une gestion qui prévient les catastrophes, les situations anormales. Et nous avons besoin de l'énergie, nous avons besoin de l'eau, nous avons besoin du courant dans une ville. Ce n'est pas le village, nous avons où aller chercher le braise, où aller chercher de l'eau.
Ça, c'est un problème de gestion et du système qu'il faut changer.
Oui, c'est la gestion qu'il faut changer. Et je pense que le moment que nous traversons ici avec tous les vents de l'Afrique du Nord, tout ce qui se passe dans le monde, je pense que nos autorités devaient revoir la gestion.
Merci Alain Botoko, Dieudonné Moulamba. Vous êtes journaliste de la radio télé Malanji FM et correspondant de Digital Congo à Kananga. Comment vous avez accueilli ce changement à la tête de la SNEL?
Moi, je me suis plutôt posé beaucoup de questions sur cette question. Je me suis dit, mais sont-ce des hommes qui ont manqué à la SNEL pour bien fonctionner? Sont-ce les moyens qui ont manqué ou qui ont fait défaut pour que la SNEL puisse être à la hauteur de sa charge, ou l'équipe de la SNEL puisse être à la hauteur de sa charge? Est-ce par manque de possibilités que ces hommes n'ont pas su bien travailler? Je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce que le gouvernement a trouvé dans cette nouvelle équipe qui est aujourd'hui en place comme garantie de la réussite ou de l'élévation ou de relève ou de la bonne marche de la SNEL? Je me suis posé beaucoup de questions, mais finalement, je me dis, il faut vraiment qu'on puisse poser un bon diagnostic de la situation des dysfonctionnements de la SNEL avant de changer l'équipe. Si effectivement, le pouvoir a trouvé que l'équipe qui était en place ne répondait ou n'était pas à la charge ou à la hauteur de la charge lui conférée, ok, ce changement peut avoir sa raison d'être. Mais si c'est peut-être, comme Benoît venait de le dire, pour raison des clientélismes politiques, que cela a eu lieu, ou si c'est peut-être une erreur qui s'est glissée autour des autorités supérieures du pays, moi je me dis que nous irons de changement en changement, nous irons de limogeage en limogeage. Parce que jusqu'à présent, il faut savoir que l'équipe qui était en place était en train, je crois, était en train d'emmagasiner l'expérience. Il était justement question qu'on puisse lui imposer une bonne gestion, une bonne gouvernance, comme les amis l'ont dit. Et si on imposait ça comme modalité de gestion des choses, peut-être les choses marcheraient. Parce que ceux qui viennent aujourd'hui d'accéder, nous connaissons les Congolais, vous savez, nous connaissons les Congolais comment ils se comportent. À peine à la tête ou aux affaires comme ça, ils ont tout le temps pour pouvoir se débrouiller petit à petit, pour peut-être amasser des flics de gauche à droite.
En conclusion, nous sommes à la fin de l'émission, si en conclusion.
Si c'est comme ça que les choses doivent se passer, moi je me dis que ces changements à la tête de la SNEL risquent d'être de trop ou un acte qui pourra passer sans effet. Hein.
Merci Dieudonné Moulamba, c'est la fin de cette émission. Merci aux confrères d'avoir participé à ce débat. Merci également à Alain Jung et Samuel Kachak qui ont réalisé et préparé pour vous cette émission. Kelly Mkoute vous l'a présentée. Mimi Kindou était à la technique. Retrouvez-la sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.